Les jeunes reporters européens vous parlent.
Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission des jeunes reporters européens sur O2 Radio. Oula, déjà je galère. Aujourd'hui, on va parler de l'urbanisation par et pour les hommes. Et je suis une fois encore accompagnée de la même équipe que les deux semaines précédentes à peu près. Du coup, Mariana, Victoire, Carla, Laura et aujourd'hui, on est aussi accompagné de Marie, Caro et Clémentine. Voilà, voilà. Et les deux Nico en régie comme d'habitude. Et on peut commencer tout de suite par la première partie. Et du coup, c'est Victoire qui va nous présenter le contenu aujourd'hui et du coup, qui va nous parler de l'urbanisation.
Tout à fait vrai, puisque pour préparer ce sujet, je suis partie d'un podcast de Binjurio intitulé « Les couilles à table ». Où Victor Toyon revient sur des aspects du féminisme en s'interrogeant sur le point de vue des hommes. On peut notamment trouver un sujet sur la masculinité après le mouvement MeToo, lancé en 2017 pour dénoncer les viols et les abus sexuels, ou celui auquel je me suis plus particulièrement intéressée puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, intitulé « Des villes viriles » et qui traite de l'urbanisation par et pour les hommes. Donc, dans cet épisode, Victoire Toyon discute avec Yves Rébeau, chercheur en géographie au CNRS à Bordeaux, qui travaille depuis plusieurs années sur la répartition de l'espace urbain en fonction du genre. Dans cet article publié sur le site du CNRS, il fait un constat accablant. La ville est construite pour les garçons. On peut citer par exemple le fait qu'il y ait beaucoup plus de noms de rues masculins que féminins, peut-être dû au fait que l'histoire a pas mal invisibilisé les femmes célèbres au profit de leur mari, leur frère, leur fils, leur cousin par alliance ou que sais-je encore. Donc 94% des plaques de rue ou des espaces publics portent le nom d'un homme. Néanmoins, certaines grandes villes comme Marseille ou Paris se démarquent. Des avancées ont été, par exemple, entreprises avec la construction du tramway parisien, où sur les 18 stations de la ligne T3, 9 portent des noms de femmes, ce qui est déjà une belle avancée. Par ailleurs, l'auteur souligne l'inégalité qui résiste dans l'offre de loisirs urbains. Dès le début de l'adolescence, ce sont les garçons qui sont les grands bénéficiaires de cette offre. Skatepark, stade équipé en terrain de basket, de foot, barre de muscu. La longue liste des activités sportives et urbaines révèle leur accaparement par les garçons et le manque d'activités mixtes proposées. Yves Rébeau explique que cette situation provient en partie à la volonté des actrices et acteurs de la ville de canaliser la violence des jeunes, à savoir celle des garçons.
Et du coup, je voulais réagir parce que j'ai entendu que tu as parlé des noms de rue. Ouais. Et je sais que par exemple, en 2012, juste pour rajouter, parce que...
Petite
connaissance à rajouter. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, je sais qu'en 2012, à Paris, ils ont mené une action par rapport au nom des stations de métro. Parce qu'avant ça, je crois que c'était à peu près 3% des noms. Mmh. Des stations de métro étaient des noms de femmes et je sais qu'après, enfin en 2012 ils ont mené une action pour du coup féminiser les noms des stations de métro. Maintenant je sais pas le pourcentage mais je sais qu'ils ont vraiment fait énormément d'efforts là-dessus. Ouais. Donc, juste voilà la symbolique du nom et la symbolique de la visibilité des femmes dans la rue et dans l'espace urbain. Du coup tout de suite on va lancer une musique, ça s'appelle, alors c'est pas moi qui ai choisi, c'est Hélène qui a été en charge des musiques cette semaine, qui n'est pas là aujourd'hui pour les présenter, donc je ne sais pas trop comment dire le nom de ce groupe. Gnarls Barclay avec Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Just knew too much. Does that make êtes de retour dans l'émission des jeunes reporters européens sur Eau de Radio et aujourd'hui on parle de l'urbanisation par et pour les hommes. Dans la première partie, on a parlé mobilier urbain et symbole problématique de la domination des hommes dans la ville. Et dans cette deuxième partie, on va parler comportement, un peu d'harcèlement de rue et du coup, en général, des conséquences de cette domination des hommes dans la rue. Et Victor, c'est à toi.
Merci, Zoé. Donc, il faut rajouter aussi les comportements dans les espaces publics. Donc, qui fait quoi ? Pendant combien de temps ? Ainsi, un homme peut rester longuement installé sur un banc public alors qu'une femme ne le fera pas. Tout au plus fait-elle des stop and go, le temps de se reposer un instant sur un banc ou trouver quelque chose dans son sac. On a d'ailleurs vécu ça avec Tessa hier quand on est parti, enfin quand on attendait le bus avant de partir en intervention. Il y a un homme qui est venu nous aborder au calme, toutes les deux. Bon, on a fait semblant de pas le comprendre, mais c'est intéressant de se demander si ça aurait été la même chose si on avait été des hommes.
Bah, on sait que voilà, on en a parlé avec Marie hier. Le truc, c'est que on sait qu'un homme oisif dans la rue, c'est normal et on le voit tous les jours et c'est habituel. L'habitude qu'ils ont pris. Sauf qu'en fait, une femme, en fait, quand on regarde les comportements des uns et des autres dans la rue, on voit que les femmes sont très rarement oisives. Elles ont toujours une activité quand elles sont sur un banc. Elles lisent, elles attendent, elles ont des écouteurs, elles sont sur leur portable. Parce que la vision d'une femme oisive, on sait que ça a une autre référence. Donc forcément, enfin, c'est une habitude aussi qu'on a pris tous et toutes, je pense.
Oui, c'est dans les mœurs, en fait, simplement.
Dans la rue, les femmes semblent n'être légitimes que par les fonctions qu'elles assument, comme les courses ou l'accompagnement des enfants. Quand on les regarde, elles sont toujours en train de tirer, de pousser ou de porter des poussettes, des sacs, des enfants par la main, etc. De ces observations, on peut conclure que les hommes occupent l'espace public alors que les femmes n'y font que circuler. C'est exactement ce que tu disais.
Mais là, du coup, pareil, on en a parlé hier. En fait, c'est l'usage différencié c'est l'usage pendulaire et l'usage zigzag de la ville. Ouais. En fait, on sait que les femmes ont un usage zigzag de la ville parce que dans les statistiques de l'INSEE, on sait que c'est les femmes qui vont plutôt s'occuper d'aller mettre les enfants à la crèche, d'aller récupérer mamie, d'aller faire les courses et tout ça. Alors qu'en fait, les hommes, c'est plus maison, travail, travail, maison. Donc, du coup, c'est beaucoup plus pendulaire que zigzag. Ouais. Et on voit aussi, quand on étudie les statistiques de l'INSEE, que c'est complètement contraire, en fait, aux habitudes de consommation. Parce que, par exemple, on sait que les hommes, en très grande majorité, ont la grosse voiture de la famille. Et au final, quand on voit leur pratique de la ville, ils ont une pratique très pendulaire. Avoir la grosse voiture qui est un symbole de domination, ça sert absolument à rien, à part le symbole de domination.
Voilà. Il aura la femme.
C'est ça. C'est pas
non,
faux,
mais
hein.
C'est ça,
c'est
en
pas
soi.
Faux, ouais. Ouais. Mais c'est pareil, c'est dans les mœurs. Ouais. C'est comme ça.
Donc, enfin, on ne peut pas ne pas mentionner le harcèlement de rue auquel les femmes sont constamment confrontées et qui est, selon moi, une conséquence directe de l'urbanisation. Pareil pour les hommes, on en discutait avant l'émission avec Zoé.
Et justement, excuse-moi, pour rebondir sur ton anecdote de tout à l'heure avec Tessa hier, ouais. c'est des fois, je me demande si même, en fait, l'homme en lui-même pense que c'est du harcèlement de rue de venir comme ça aborder.
C'est beaucoup plus inné que ça, en fait.
C'est pour ça qu'au final, ouais, c'est ça. C'est même pas pour eux, c'est même pas.
C'est un droit qu'ils ont d'être là et d'occuper l'espace en soi.
C'est ça.
Ouais. C'est ça.
Donc nous sommes tous d'accord. Terminer. J'allais rajouter quelque chose, mais ma pensée s'est échappée. Très bien. Ah. Bon, vas-y, Victor, du coup.
Selon l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, au cours d'une étude réalisée en 2017, au cours de leur vie, 8 Françaises sur 10, soit 80%, ont déjà été confrontées à au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue ou dans les transports en commun. Et là, je me permets de faire une petite dédicace à cet homme qui a jugé opportun de mettre la main autour de mon épaule la semaine dernière quand je rentrais de soirée et que j'étais, comme la plupart des femmes qui rentrent de soirée, assez... j'étais pas safe, j'étais pas bien.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, en mode un peu vulnérable, quoi.
Voilà. Et pour nombre d'entre elles, il ne s'agit pas d'une expérience lointaine qui a remonté des années, puisqu'une femme sur quatre soit 26%, y a été confronté au cours des 12 derniers mois. Dans la rue comme dans les transports, les formes verbales ou visuelles de harcèlement sont les atteintes les plus répandues. Au premier rang desquelles on retrouve les sifflements et les regards insistants.
Et c'est bien, je pense que tu mentionnes les transports parce qu'on parle beaucoup du harcèlement de rue, alors qu'en fait, dans les chiffres, c'est surtout et beaucoup plus les transports en commun que la rue. Mais on sait, par exemple, je crois que, et je sais plus si la statistique est nationale ou simplement en Île-de-France, il me semble que c'est simplement en Île-de-France, on arrive à presque 100% de femmes qui se sont déjà fait
agresser
dans les transports. Avec les frotteurs du métro et tout ça, donc ça, on
100% des femmes,
on y est vachement confrontées et on y est surtout vachement... Enfin, on en parle tout le temps. Et en fait, du coup, j'allais rebondir sur ce que tu dis. C'est pas faux, bien sûr, dans les statistiques, on le voit. Mais d'un autre côté, les statistiques montrent aussi que dans les agressions sexuelles, il me semble que c'est plus de 80% qui sont dans l'espace privé et non dans l'espace public. Et donc, du coup, c'est bien et c'est correct de parler du harcèlement de rue et du harcèlement dans les transports. D'un autre côté, en termes d'importance statistique, c'est beaucoup plus mineur que les agressions dans l'espace privé. Du coup, on est dans une espèce de monde où en fait, on nous fait peur. On nous dit que l'espace public c'est dangereux et qu'on va se faire attaquer, qu'on va se faire violer par le premier inconnu qui vient.
Faut pas prendre
de ruelle
sombre.
Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est complètement imagé et c'est. On le voit par exemple. J'en ai parlé encore hier avec Marie, mais c'est par exemple l'année dernière avec l'affaire Daval où on disait meurtre de la joggeuse. Et en fait, c'est là où on voit totalement l'incohérence de cette peur parce qu'en fait, on dit meurtre de la joggeuse comme si elle avait été tuée par un inconnu qui passait dans le parc, alors qu'en fait c'était son mari qui l'avait tuée dans l'espace privé. Et donc c'est là où on voit en fait tout le mensonge, mais vraiment on veut nous faire croire que c'est le loup alors que non, enfin on devrait pas avoir aussi peur de la rue, même si la rue est construite pareil pour les hommes et on devrait pas en avoir aussi peur.
Il y a 80% des attaques sur les femmes, c'est par une personne proche.
Voilà, c'est ça. Donc du coup on voit que l'agresseur inconnu qui arrive dans le noir pour te faire peur, c'est quand même ça arrive, bien sûr, on va pas,
ça existe, mais c'est pas la majorité.
En fait, on veut nous faire peur et ça sert aussi à la domination masculine dans la rue c'est en fait un cercle vicieux qu'on n'arrêtera jamais si on n'arrête pas d'avoir peur dans la rue. Et moi j'ai tout le temps peur dans la rue, donc voilà.
Je pense que on est toutes dans le même
on
cas.
On est toutes dans le même cas.
Je pense qu'on peut tous dire que le soir, en rentrant de soirée, on n'est pas forcément rassuré des personnes qui sont derrière nous.
Voilà, et donc du coup, je voulais aussi mentionner, je sais pas si tu vas le mentionner après, mais des stratégies de contournement et les stratégies mises en place du coup par les femmes pour essayer de trouver des solutions à cette peur. Et du coup, je pense qu'on a toutes des solutions dont on se rend pas forcément compte en fait on dit est-ce que ton usage de la ville est différent d'un homme, non. Et en fait du coup il y a plein d'études de témoignages, les marches nocturnes et tout qui aident à se rendre compte qu'en fait par exemple si t'as deux rues parallèles, qu'il y en a une qui a des réverbères et l'autre qui en a pas, tu vas pas forcément aller dans celle qui a pas de réverbères. Tu vas sans doute prendre des baskets dans ton sac quand tu mets des talons pour aller en soirée, tu vas redescendre ta jupe quand tu sors de la boîte, tu vas essayer de rentrer avec tes potes. Enfin, je pense qu'on a tous déjà connu ça. Et je dis pas que c'est un comportement que féminin, dans le sens où je pense qu'il y a aussi plein de mecs qui ont parfois des peurs dans la rue,
aussi,
notamment des vols, des attaques. Bien sûr, il y a des agressions qui sont autres que sexuelles. Je pense qu'il faut pas non plus minimiser la chose. Mais donc, je pense que même les hommes ont des stratégies de contournement, mais pas forcément sur les mêmes raisons. Je pense que moi, en tant que femme, j'ai presque plus peur de me faire agresser sexuellement que de me faire voler, alors qu'au final j'ai beaucoup plus de chances de me faire voler que de me faire agresser sexuellement, clairement. Mais bon, voilà, donc encore une fois, ça encourage les peurs, tout ce discours d'agression et d'harcèlement dans la rue. Voilà, je sais pas si t'avais fini, Victoire, du coup, long discours pour pas dire grand chose, mais.
Je continue.
Voilà.
Et il y a un aspect qui peuvent toujours être pensés comme des techniques d'approche déplacée. On se rappelle de la fameuse misère sexuelle des agresseurs des plotteurs dans le métro, comme le disait Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve qui a aussi tenu des propos clairement antiféministes, donc je ne sais pas si c'est une très bonne citation ici, mais je laisse ça comme ça.
Les gestes grossiers à connotation sexuelle et les remarques sexistes semblent, eux, un peu moins répandu dans cet espace public. Ce n'est pas le cas des situations de pression ou de menaces psychologiques que peuvent constituer le fait d'être suivi sur une partie de son trajet ou d'être abordé avec insistance malgré une absence claire de consentement. Et ici, on a une pensée émue pour nos amis sur le trajet du retour en fin de soirée, à savoir nos clés tient entre l'index et le majeur, ou pour les plus prévoyants, des bonbons pauvres.
C'est clairement ce que j'ai dans mon sac. Si, c'est interdit, mais j'en ai quand même une dans mon sac.
Voilà, elle s'appelle Marie, voilà. Elle a un pull orange aujourd'hui. Attention. Vas-y, Victor, désolé.
Mais bon, avant d'en arriver là, ce serait bien que les hommes fassent la place pour les 50% de la population, non?
Je pense pas. Oh, je sais que c'était une question ouverte qui n'attendait pas de réponse, mais honnêtement, je pense que ce serait une erreur de dire, vous faites exprès, vous vous rendez pas compte de la place que vous prenez dans la rue, mais quand on parle aux hommes, je pense que personne, enfin, c'est impossible de se rendre compte de la domination que tu peux avoir quand t'es né avec, en fait, pour moi.
Oui, voilà,
si t'as toujours appris à être dominant, pourquoi, enfin, comment tu peux voir, enfin, je pense très dur, c'est possible, mais je pense que c'est très dur et ça, c'est un long travail de pouvoir observer et voir la domination que tu as sur les autres quand t'es né avec. Et donc, du coup, ça rejoint encore la conversation hier qu'on a eue avec Marie. beaucoup de références à cette conversation. Et du coup, c'est là où on parle de beaucoup de socialisation primaire et tout ça. Et en fait, je pense que c'est tout le pouvoir du symbole. C'est pour ça, il y a plein de gens, mais il y a tout le temps des articles qui passent, moi, sur mon Facebook, et il y a tous les hommes et même des femmes qui commentent, mais de toute façon, les noms de rue, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi les noms de rue sont, ça montre que les hommes dominent dans l'espace public, alors qu'en fait, c'est un grand symbole de, c'est pas une domination, c'est juste que les femmes, elles sont pas là, en fait. Juste, elles sont pas symboliquement dans l'espace public, parce qu'il y a pas de nom de rue, il y a pas de station de métro.
Elles sont
invisibilisées.
Et donc, du coup, en fait, ce serait plus le fait qu'il faut que les femmes aient une visibilité, mais ça, c'est aussi, c'est pas aux femmes de le faire, mais c'est pas non plus, enfin, pour moi c'est dur de dire aux hommes casse-toi, en fait t'as pas ta place, enfin, parce qu'il y a plein de stratégies mises en place maintenant qui sont exclusivement réservées aux femmes. Moi, pour moi, c'est une grosse erreur, parce que tu peux pas, pour moi, on peut pas parler d'égalité en divisant on peut pas essayer d'avoir l'égalité homme-femme en virant totalement les hommes de la conversation, c'est une grosse erreur. Et du coup, donc on parlait hier de la socialisation primaire et toutes les solutions pour que les femmes reprennent une place symbolique et les petites filles reprennent un espace symbolique dans l'espace public et du coup dans les écoles, par exemple, avec la symbolique des terrains de foot ou des city-stades et tout ça. Donc tous les budgets qui sont alloués à ce genre d'équipements qui, en fait, où on voit, en tout cas ceux qui s'en servent, bien sûr, c'est pas que pour les mecs, c'est pas que pour les petits garçons. On dit pas le foot, vous avez pas le droit d'y jouer si vous êtes une fille, c'est absolument faux. Je vais pas commencer à dire ça, c'est complètement faux. Mais moi, en tant que petite fille, j'ai jamais fait il y avait que des petits garçons qui jouaient sur mon terrain de foot, je me suis jamais dit allez, je vais jouer au foot, enfin, il y avait aucune de mes copines qui jouait, moi non plus je jouais pas, enfin, c'est un cercle vicieux qui est sans fin, sauf que quand tu vois que le terrain de foot prend 70% de la place dans la cour de récré, tu te dis en fait elle est où la place des autres, ceux qui jouent pas au foot,
des enfants en général au final,
de tous les autres enfants et même les garçons qui veulent pas jouer au foot d'ailleurs, mais voilà, encore une fois c'est aussi un symbole. On va peut-être lancer notre troisième partie, à voir si on a des choses à rajouter. Long sujet, c'est un peu dur d'aborder ça en une demi-heure. Mais voilà, alors du coup, Hélène m'a donné un petit texte à lire pour présenter la deuxième musique, qui est un morceau musical écrit par Chrissy Hynde. Bon, là, c'est vraiment horrible les noms qu'elle m'a donné à lire, et qui fait partie du groupe américain The Pretenders. Et le morceau reflète son intérêt particulier pour les actualités environnementales et sociales. Et plus notamment, il s'agit du développement urbain autour d'Akron dans l'Ohio et le renouvellement du centre historique d'Akron pour construire une plaza urbaine. Du coup, les paroles de la chanson qu'on va donc écouter suivent la ligne autobiographique de Chrissy Hynde qui, en retournant dans sa maison dans l'Ohio, a découvert que le développement urbain et la pollution avaient détruit le joli paysage de sa jeunesse. Et donc tout de suite, on écoute « My City Was Gone ».
stood on the back porch. There was nobody home. I was stunned and amazed. My childhood memories sort of swirled past like the wind through the trees. Hey, oh, won't you go Ohio?
Vous êtes toujours dans l'émission des jeunes reporters européens. Petite galère, tout le monde me regarde, bon, c'est pas grave. Dans l'émission des jeunes reporters européens sur O2 Radio, et on arrive à notre troisième partie de notre émission. Et tout de suite, on va passer à la revue de presse présentée par Victoire cette semaine, qui a eu beaucoup de travail.
La nouvelle est tombée mercredi matin. Et même si j'aurais préféré partager avec vous des nouvelles plus réjouissantes, on est fixé. Cette fichue histoire de Brexit, c'est pas demain la veille qu'on n'en entendra plus parler. Puisque mardi soir, le Parlement britannique a rejeté l'accord durement négocié entre Londres et Bruxelles par 402 voix contre et seulement 202 pour, ce que le Huffington Post qualifie de plus lourde défaite pour un dirigeant britannique depuis les années 20, et El País, quotidien espagnol principal, de débâcle parlementaire. Ils veulent absolument sortir et font toute une histoire pour se dire une fois dehors que c'était pas si mal à l'intérieur. Les Anglais sont donc officiellement les chefs de l'Union européenne. Et ici, on fait un gros bisou à tous nos auditeurs, propriétaires de chats. On comprend votre galère.
Et tout de suite, on passe au coup de cœur de...
Dire...
Ah, pardon. Désolée, je croyais que j'avais fini. Désolée, je suis désolée. Oh, je sais pas, tu m'as regardé, je me suis dit, bon, ok, bon, bah voilà, on passe à la hola, moi, je sais pas.
Il faut dire que Theresa May a fait fort, puisqu'elle a réussi à unir les conservateurs et les travaillistes contre elle. Ils ont rejeté en masse le traité de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle est tout de même bien retombée sur ses pattes. Je file la métaphore des chats.
Oui, j'ai bien vu, j'ai bien vu.
Puisqu'elle est sortie indemne de la motion de censure initiée par Jeremy Corbyn, le leader travailliste au Parlement. On s'engage donc vers un Brexit hard, c'est-à-dire un Brexit sans accord. Selon Der Spiegel, le quotidien. Un des